Tout de suite, le journal des Amériques et d'Haïti. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles et bienvenue à tous. Les 50 ans de la mort de Martin Luther King, on ira à la rencontre des témoins de l'époque aux États-Unis, ceux qui ont rencontré le pasteur la veille de son assassinat à Memphis. Ils racontent comment ils ont réagi à sa mort, l'émotion que cela a provoqué à l'époque, des témoignages recueillis par Joe Farmer. Avec notre correspondant en Californie, Eric DeSalve, on va parler de l'héritage de Martin Luther King, alors que l'Amérique se bat toujours avec les mêmes démons. La mort d'un jeune noir de 22 ans à Sacramento ravive les blessures du passé. Une mobilisation aura lieu aujourd'hui dans la capitale californienne. Dans votre revue de presse, Juliette Garbrand va parler de ce jour très attendu au Brésil. C'est aujourd'hui que la Cour suprême va décider du sort de l'ex-président Lula à 6 mois de la présidentielle. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés hier au Brésil pour réclamer son emprisonnement.
From the WCTO Radio News Bulletin, this bulletin just in, Dr. Martin Luther King was shot outside a Memphis hotel this afternoon. His condition was not immediately known. Once again, Dr. Martin Luther King.
C'était il y a 50 ans, l'Amérique est sous le choc. Le pasteur afro-américain Martin Luther King vient d'être assassiné à Memphis. Il se trouvait sur le balcon de sa chambre d'hôtel lorsque James Earl Ray, un ségrégationniste blanc, l'a abattu de sang-froid. L'assassinat déclenche des émeutes dans des centaines de villes aux États-Unis, faisant 39 morts. Bonjour Harim Leipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Harim, pour la communauté afro-américaine, ce jour-là reste à jamais gravé dans les mémoires.
Oui, c'est le cas pour Calvin Taylor qui a rencontré Martin Luther King la veille de son assassinat. Aujourd'hui, âgé de 70 ans, Taylor a été un membre des Invaders, un groupe d'étudiants de Memphis proche du mouvement Black Power. Il se souvient encore très très bien de ce 4 avril 1968.
Le 4 avril 1968, j'étais à la rédaction d'un journal local où je récoltais des dépêches qui tombaient sur les téléscripteurs. Habituellement, dès que nous entendions des sirènes de police dans la rue, nous savions que les téléscripteurs allaient commencer à crépiter. Mais ce jour-là, tout était calme. Pendant quelques minutes, nous n'avons eu aucune communication de la part des autorités. Au bout de quelques minutes, une seule dépêche est apparue. Elle annonçait la mort de Martin Luther King au moment même où les haut-parleurs de la police annonçait le couvre-feu. Voilà comment j'ai appris cette terrible nouvelle. Ce fut un choc pour moi. Je me demandais comment ce meurtre pouvait être possible.
Le 3 avril, la veille de son assassinat, Martin Luther King tient un discours que certains interpréteront plus tard comme prophétique.
Well, I don't know what will happen now, but it really doesn't matter with me now.
Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, déclare le pasteur devant une foule rassemblée à l'église Mason Temple, mais peu m'importe car je suis allé au sommet de la montagne. Ses propos résonnent encore dans l'oreille de Bertha Looney. Cette enseignante de 76 ans, l'une des premières étudiantes noires de l'université du Tennessee, a assisté à ce dernier discours de Martin Luther King.
Durant son discours, j'étais bizarrement assez triste. Il y avait de l'électricité dans l'air. Sa voix, son phrasé, la grandiloquence de son propos nous portaient. Mais lorsqu'il est parvenu à la conclusion de son discours, j'ai vu dans ses yeux quelque chose d'étrange. Puis, il s'est assis. Ses proches l'ont entouré et tout le monde pleurait. Et malgré l'orage qui tenait à l'extérieur, nous voulions prolonger cette soirée. Nous sommes nombreux à nous être interrogés quelques jours plus tard. Savait-il ce qui allait lui arriver? J'ai appris son assassinat en écoutant la radio. J'ai prié pour qu'il survive. Mais lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il était trop tard.
En fait, Martin Luther King se trouvait ce jour-là à Memphis pour soutenir une grève des éboueurs afro-américains. Sous le slogan « I am a man », je suis un homme, ils exigeaient de meilleures conditions de travail. 4 ans avant, le président américain Lyndon B. Johnson avait certes signé la fameuse loi sur les droits civiques, mais la discrimination continuait dans la vie quotidienne et elle est encore bien perceptible aujourd'hui, nous explique Calvin Taylor.
Que vous le vouliez ou non, et même si on essaie de vous prouver le contraire, Memphis est toujours une ville où règne la ségrégation. Bien entendu, nous partageons davantage de choses aujourd'hui avec les Blancs. Nous allons voir des spectacles ensemble, nous participons à des cérémonies officielles ensemble. Mais nous ne connaissons pas nos voisins, car il existe toujours des quartiers noirs et des quartiers blancs. Nous avons toujours des écoles privées réservées aux Blancs. Les écoles publiques sont majoritairement fréquentées par les Noirs. Le fait que je réside aujourd'hui dans un quartier blanc ne signifie pas que nous vivons ensemble. Il suffit que 12 familles noires s'installent par ici pour que les familles blanches décident de déménager. Une seule famille noire est encore acceptable, mais pas plus. Nous sommes tolérés ici.
On voit bien, Anne, 50 ans après la disparition de Martin Luther King, son combat reste toujours d'actualité.
Merci beaucoup à Rim Lipold et surtout merci à Joe Farmer qui a recueilli ses précieux témoignages sur place à Memphis, Tennessee. Les prochains épisodes de son émission, l'épopée des musiques noires, tous les week-ends sur RFI, seront également consacrés à la lutte pour les droits civiques. L'héritage de Martin Luther King, à présent, les hommages aujourd'hui auront lieu à travers tous les États-Unis, notamment en Californie, où l'histoire semble se répéter. Ces commémorations font en effet écho aux violences policières toujours actuelles contre les Noirs. À Sacramento, la capitale de la Californie, des manifestants vont aujourd'hui demander une fois de plus justice après la mort d'un jeune Noir de 22 ans, Stephen Clark. C'était le 19 mars dernier. Il a reçu 8 balles dans le dos suite à un contrôle de police et cela a provoqué une grande émotion sur place avec de nombreuses manifestations. On retrouve notre correspondant en Californie, Eric Delsalve. Les hommages à Martin Luther King vont donc se mêler à ceux à Stephen Clark aujourd'hui à Sacramento.
Oui, manifestation encore une fois à l'appel du mouvement Black Lives Matter qui rappelle qu'aujourd'hui marque à la fois ce cinquantenaire de la mort de Martin Luther King mais aussi celle il y a 2 semaines de Stephen Clark. La liste des Noirs tués par la police est trop longue, écrit Black Lives Matter sur Twitter. À 22 ans, Stephen Clark est le dernier en date. Ce père de 2 enfants a été abattu dans son jardin alors qu'il n'était pas armé. Les 2 agents de police ont en fait confondu son téléphone portable avec une arme à feu et ont tiré sur lui à 20 reprises. Depuis, chaque jour, des centaines de manifestants demandent que ces 2 policiers soient poursuivis par la justice. À Sacramento, ce drame suscite une vraie émotion. Le maire de la ville s'est dit horrifié. L'équipe NBA de Sacramento s'est mobilisée également. Les joueurs ont réalisé une vidéo pour demander que ces morts cessent sous les balles de la police aux États-Unis. Une police souvent accusée d'avoir la gâchette facile. C'est vrai que les chiffres en disent long. Selon un décompte du Washington Post, sur les 3 dernières années, la police américaine a tué en moyenne 1 millier de personnes chaque année. Selon ce décompte, depuis le début de l'année 2018, la police a tué 277 personnes aux États-Unis et un tiers de ces morts étaient des Africains-Américains.
Et pourtant, Eric, aux États-Unis, les policiers sont très rarement poursuivis et jugés pour homicide.
Oui, la preuve, dernier exemple en date, en Louisiane, à Baton Rouge, les 2 policiers qui avaient mortellement tiré sur un homme noir, qu'ils avaient pourtant déjà maîtrisé au sol, ont bénéficié d'un non-lieu la semaine dernière. En 2016, cette mort d'Alton Sterling, filmée par des passants, avait pourtant provoqué de violentes émeutes aux États-Unis. À chaque fois, ces drames réveillent le spectre du racisme dans les rangs de la police américaine, encore très souvent accusée d'excès de violence contre les Noirs. À Sacramento, les 2 policiers incriminés ont simplement, eux, été mis en congé. Et pourtant, les vidéos de la mort de Stephen Clark ont été diffusées et elles sont éloquentes. Là aussi, elles montrent que les policiers ont ouvert le feu presque sans sommation. Par ailleurs, leur version des faits est contredite par l'autopsie demandée par la famille. Les résultats montrent que le jeune homme a été tué de 8 balles dans le dos alors que les agents prétendaient que Stephen Clark leur faisait face et avançait vers eux.
Merci beaucoup, Eric Delsalve, notre correspondant en Californie. Bonjour Juliette Gerbrand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Dans votre revue de presse, après le combat de Martin Luther King pour les droits des Noirs aux États-Unis, on parle de la politique anti-immigration de Donald Trump avec à la une du Wall Street Journal ce titre « Le président veut déployer l'armée à la frontière ».
À la frontière mexicaine bien sûr. Depuis des jours, le président américain fait monter la pression en réaction à une caravane de migrants qui traverse actuellement le Mexique en direction des États-Unis et ce à l'initiative d'une ONG. Donald Trump veut envoyer l'armée à la frontière en attendant la construction du mur. Et ils mettent aussi l'économie dans la balance avec l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain. Le Wall Street Journal cite ce tweet du président. Il les vaudrait mieux que cette grande caravane soit stoppée. La vache à lait de l'ALENA est en jeu, tout comme l'aide américaine au Honduras et à tous les pays qui laissent faire ce genre de choses. Le Congrès doit agir maintenant, conclut Donald Trump. Mais, explique le journal, ces menaces surviennent alors qu'Américains, Canadiens et Mexicains sont en train d'accélérer les négociations sur l'accord économique et que les États-Unis, comme le Mexique, poussent pour que les discussions sur l'ALENA aboutissent rapidement avant les échéances électorales de ces 2 pays, sachant que le gouvernement américain a de plus récemment annoncé des mesures de rétorsion commerciale contre la Chine.
Et du coup, Juliette, le Mexique n'a pas tardé à réagir.
Et c'est-à-dire dans les colonnes d'El Excelsior. Le gouvernement mexicain a demandé officiellement aux États-Unis de clarifier l'annonce du président américain sur le déploiement militaire à la frontière. Le journal rapporte aussi les propos du ministre des Affaires étrangères, Luis Videgaray, pour qui le Mexique ne conduit pas sa politique migratoire sous la menace. Le gouvernement mexicain, poursuit le journal, a assuré hier soir que les participants à la caravane faisaient l'objet de procédures administratives d'immigration. 400 d'entre eux auraient été renvoyés dans leur pays d'origine. Quelques-uns auraient obtenu l'asile au Mexique. Et sur les réseaux sociaux, Luis Videgaray explique enfin que les participants à la caravane sont en train de se disperser progressivement de leur plein gré.
On reste aux États-Unis, Juliette, où l'enquête se poursuit sur la présumée ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 menée par Robert Mueller.
Oui, et c'est le Washington Post qui apporte aujourd'hui de nouvelles précisions juridiques sur le statut de Donald Trump. Selon les sources du journal, le procureur spécial Robert Mueller considère pour l'instant le président comme un sujet de l'enquête, c'est-à-dire selon la loi qu'il ne dispose pas d'indices suffisants pour que des charges soient retenues contre Donald Trump. Et Robert Mueller aurait de nouveau invité le président à témoigner devant la justice. Mais, poursuit le Washington Post, les avocats du président estiment qu'un sujet peut facilement devenir une cible, c'est-à-dire toujours selon la loi, se retrouver en accusation en fonction des déclarations qu'il ferait.
On part maintenant au Venezuela qui réagit aux propos du président Emmanuel Macron sur la future élection présidentielle.
En effet, le président français a reçu hier à Paris une délégation de l'opposition, on en a parlé sur cette antenne, et il a déclaré dans un communiqué « Les conditions d'organisation des élections présidentielles le 20 mai ne permettent pas en l'état un scrutin juste, libre et transparent ». La réaction de Caracas est à lire dans El Universal.
Et la République bolivarienne rappelle Paris à l'ordre, explique le journal qui cite le ministre des Affaires étrangères.
Président Macron, le 20 mai, des millions de Vénézuéliens vont élire démocratiquement leur président de la République avec le système électoral le plus sûr et le plus transparent au monde, écrit sur Twitter Jorge Areaza, qui poursuit « Nous exigeons le respect des affaires intérieures du Venezuela ». Au contraire, dans les colonnes du quotidien national, l'opposition se félicite du soutien français. Le journal rapporte les propos de Carlos Vecchio, ce responsable du mouvement Voluntad Popular, Volonté Populaire, qui faisait partie de la délégation, remercie le président Macron, à qui, explique-t-il, il a longuement parlé de la crise humanitaire que traverse le Venezuela.
On passe au sujet du jour au Brésil avec à la une de la presse la décision très attendue à 6 mois de la présidentielle de la Cour suprême sur le sort de l'ancien président Lula.
La Cour pourrait accorder aujourd'hui à Luis Ignacio Lula da Silva un habeas corpus, ce qui lui éviterait de se retrouver derrière les barreaux tant que tous ses recours ne seront pas épuisés. Et cette procédure pourrait durer des mois, voire des années. Ou bien elle pourrait refuser cet habeas corpus à l'ancien président, qui se retrouverait donc en prison. Les Brésiliens sont extrêmement mobilisés. Hier, plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues, la plupart pour réclamer l'emprisonnement de l'ancien président. Aujourd'hui, ce sont les partisans de Lula qui se mobilisent et se rassemblent devant la Cour suprême.
Et le chef d'état-major des armées, Juliette, s'est immiscé dans le débat.
Dans un climat déjà très agité, Anne, on l'a compris, Eduardo Villas-Boas a déclaré sur Twitter que l'armée rejetait, je cite, « l'impunité et respectait la Constitution, la paix sociale et la démocratie ». Comme tous les bons citoyens, a précisé le haut gradé, des propos largement repris par la presse brésilienne et surtout likés et partagés par de nombreux hauts gradés de l'armée, comme le note le quotidien Correio Brasiliense. Selon le journal Folha de São Paulo, ces militaires font écho à une déclaration d'un autre général de l'armée, Antonio Hamilton Mourão, qui affirmait l'an dernier, je cite, que les forces armées peuvent imposer une solution si la justice n'arrive pas à résoudre le problème politique. Pour le magazine Carta Capital, ces propos du chef d'état-major accentuent encore la pression sur la Cour suprême qui donc décide aujourd'hui du sort de Luis Ignacio Lula da Silva.
Et on termine, Juliette, avec un scandale dans le milieu du football qui fait couler beaucoup d'encre en Argentine.
Oui, et cela, Anne, depuis plusieurs jours. C'est une sordide histoire qui mêle sport, prostitution, pédophilie. Des adolescents pensionnaires des centres de formation des plus grands clubs de football argentins ont été soumis à la prostitution, au viol, en échange parfois d'une promotion ou d'une simple paire de crampons. La justice argentine a ouvert une enquête. 6 personnes ont déjà été arrêtées, dont un arbitre et un organisateur de tournoi. La presse donc y consacre de très nombreux articles. On lira par exemple dans La Nation cette interview d'un psychologue qui rappelle que le foot est un vecteur de promotion sociale pour les jeunes des milieux défavorisés. Si ces jeunes pensionnaires de foot, qu'il appelle les garçons planche à billets, disent à leurs parents « je ne veux pas rester », ils peuvent s'entendre répondre que leur famille dépend d'eux pour vivre. Ils sont sous pression dès le départ, explique le psychologue qui interroge « que vont faire les directeurs de centre, les patrons du football ? Vont-ils réaliser que les violeurs se servent dans le vivier de ceux qui sont dans le besoin ? Est-ce qu'ils vont agir, mettre en place des garde-fous ?» Et le journal Clarine revient aussi sur ce scandale aujourd'hui en expliquant les derniers développements, notamment la mise en examen possible de pas moins de 9 nouvelles personnes.
Merci beaucoup Juliette Garbrand pour cette revue de presse des Amériques. Et tout de suite, c'est le journal d'Outre-mer Première, la première Caraïbe, présentée par Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et à la une, aujourd'hui, l'État promet d'aider la Guadeloupe à faire face à l'arrivée massive d'algues sargasses.
Oui, hier, le préfet Éric Maire a réuni les représentants des principales collectivités locales. Il a promis que l'État allait mettre la main à la poche pour venir à bout de ces algues brunes qui viennent s'échouer sur les plages de l'archipel avec leur lot de désagréments. Les explications d'Olivier Lancien de Guadeloupe la Première.
La conférence territoriale de l'action publique s'est penchée sur ce problème des algues sargasses en Guadeloupe. Une pollution à un degré élevé. Une réunion voulue à huis clos par le préfet de région. Éric Maire, le représentant de l'État, vient de rajouter 500 000 euros supplémentaires en fonctionnement. Au total, 1 million d'euros pour l'État pour lutter contre les algues sargasses. Mais nettement insuffisant selon les élus guadeloupéens. Jean-Pierre Dupont, le président de la CARL, estime que l'État doit faire plus. Les collectivités locales veulent intervenir. Un projet d'algues clean est à l'étude. Il s'agit d'un dispositif de ramassage de ces algues sargasses, un dispositif qui a fait ses preuves en Bretagne. Pour ce ramassage, près de 750 mètres cubes par heure au large en mer. Mais il faut mettre la main à la poche. Le président de région, Henri Chalus, insiste pour que l'État fasse jouer la solidarité nationale.
De nouveaux bancs de sargasses sont attendus sur le littoral guadeloupéen dans les prochains jours. En Martinique, Nemo, le projet de production d'énergie à partir de la différence de température dans l'eau des mers est gelé. C'est ce qu'a annoncé hier Louis Boutrin, le conseiller exécutif en charge de l'énergie lors de la première journée de débat au siège de la communauté territoriale de Martinique. Pour mémoire, le projet Nemo avait provoqué la colère, notamment du maire de Casse-Pilote, à cause selon lui de la dangerosité de la plateforme installée en mer, avec l'utilisation évoquée d'ammoniac en grande quantité. De son côté, le conseiller de l'opposition David Zobda réclame plus de précision sur le gel annoncé de ce projet.
C'est un projet qui correspondait à ce que nous pouvions espérer, de bouquet énergétique complet avec les éoliennes, le photovoltaïque, l'énergie thermique des mers, la géothermie, etc. Si on abandonne ce projet-là, il faut qu'il soit remplacé par autre chose, d'une part. D'autre part, il est question de faire voter une motion sur des éléments que personne ne maîtrise et ne connaît. Moi, je veux connaître le fond du dossier, savoir les raisons pour lesquelles ce projet est gelé, d'une part. Quelles sont les incidences de ce projet sur l'environnement, sur les populations, etc. avant de me prononcer sur une quelconque motion. En tout cas, je note simplement que ce projet, par ses promoteurs, est gelé. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces affirmations-là, mais quand il y a une homogénéité derrière un projet ou contre ce projet, c'est parce qu'il y a probablement des intérêts autres en jeu.
David Zobda répondait à Alain Livory de Martinique la Première. Et puis, nouvelle journée galère en perspective pour les usagers du bus à Fort-de-France. Toujours en Martinique, aujourd'hui comme hier, des bus du réseau Mosaïque devraient rester au dépôt à cause de la reconduction de mouvements de grève lancés notamment par les entreprises sous-traitantes écartées du nouveau marché de transport public. Excellente journée.
Merci beaucoup Edwige Saint-Thomas pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de nous être fidèles. Merci à Jonathan Brady à la réalisation. On se retrouve demain, midi 10, temps universel, 14h10, heure de Paris. En attendant, n'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr ou notre page Facebook, journal d'Haïti et des Amériques. Très très bonne journée à tous et à demain.